Bonjour à tous, ce samedi je vous propose de réentendre une enquête que nous avions diffusée en début de saison sur les faux tableaux et notamment à bas prix. Vous allez nous expliquer qu'on en trouve de plus en plus, Philippe Raltien, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous réentendrons Sofian Fanen, journaliste au site d'information Les Jours. Vous avez peut-être reçu à Noël une enceinte connectée, un beau cadeau a priori, mais nous verrons que ceux qui les produisent s'intéressent surtout à notre porte-monnaie.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Consternation au musée Étienne Térus d'Elne. Une grande partie des tableaux du peintre catalan exposés dans les salles du musée seraient des faux. 82 tableaux comme celui-ci sont actuellement sous-scellés à la gendarmerie d'Elne. Le préjudice est estimé à près de 160 000 euros.
Voilà, ça c'était un extrait d'un reportage de France 3 Languedoc-Roussillon qui a été diffusé en avril dernier. On découvre que 60% des tableaux du musée d'Elne dans les Pyrénées-Orientales sont des faux. Alors à Secret d'Info, on a voulu comprendre comment un musée tout à fait respectable a pu acheter une soixantaine de faux tableaux et on s'est demandé si d'autres musées français ne pouvaient pas, eux aussi, abriter des contrefaçons. Alors vous allez voir que notre conclusion est assez édifiante, mais avant de vous la livrer, Philippe Raltien, faut commencer par le commencement. L'affaire d'Elne, elle concerne des tableaux d'un peintre qui s'appelait Étienne Térus. Alors dites-nous, qui était Étienne Térus ?
Alors Étienne Térus, c'était un peintre natif d'Elne qui avait acquis une certaine notoriété dans la région de Collioure au début du XXe siècle, sans pour autant égaler les grands de son époque comme Cézanne, Matisse, Derain ou Mayol. C'était un fils de vitrier qui est monté à Paris à 17 ans pour y faire les beaux-arts. Mais il n'y restera pas très longtemps, comme l'explique Éric Fourcade, un historien de l'art.
Étienne Térus est un anarchiste engagé. Il décide très clairement de quitter le grand foyer de l'art moderne qu'est Paris pour retourner dans son village à Elne. Il produit très peu. Et il est assez paradoxal de se dire que finalement, 100 ans après sa mort, ou quasiment 100 ans après sa mort, on retrouve 50 pièces, 20 pièces, 30 pièces. Donc on crée, on falsifie en fait la production, puisqu'aujourd'hui faire un faux Picasso, faire un faux Matisse, ça devient quasiment impossible pour passer les différents certificats d'authentification. Donc on s'attaque peut-être à une histoire annexe, mythique, où on peut falsifier plus facilement.
Et donc Térus, si j'entends bien Philippe, c'est plus facile à copier et à vendre pour des faussaires la petite semaine. Bon, maintenant, si ces tableaux ont pu entrer au musée d'Elne, musée municipal, on le rappelle, c'est aussi parce qu'une conservatrice les y a fait rentrer.
Oui, et c'est le deuxième personnage important de cette histoire. C'est une personnalité locale qui était à la fois une militante associative et une passionnée de l'œuvre de Térus. Elle s'appelait Odette Traby. Elle est décédée en 2016. Mais en 1994, c'est effectivement elle qui ouvre le musée Térus d'Elne, comme nous le raconte encore Éric Fourcade.
Le musée qu'elle crée, c'est un musée à l'image du militantisme culturel qui pouvait exister dans les années 80. C'est-à-dire beaucoup de débrouilles, essayant de trouver des pièces, beaucoup de contacts, et ensuite essayant d'avoir des crédits municipaux. Donc elle a été à la fois à l'origine d'un festival de musique, militante associative, et elle a créé un musée.
Et c'est donc dans ce musée-là que vont atterrir 80 fausses toiles de Térus.
Oui, mais il faut bien comprendre une chose. Lorsque ces faux sont proposés à la vente, Odette Traby, alors âgée et malade, avec une vue qui a beaucoup baissé, voilà ce qui s'offre à elle comme une sorte de Graal. Et donc forcément, elle tombe dans le panneau.
On lui présente par un marchand, membre du comité Étienne Térus, près d'une cinquantaine de pièces qui sont à la vente suite à deux successions. Forcément, Odette Traby présente l'ensemble de ses pièces dans sa galerie, puisqu'elle était aussi galeriste à la galerie de Lif d'Elne. Voilà, donc c'est des gens, en tout cas, qui ont proposé ces pièces-là, qui connaissaient vraiment son envie de découvrir des nouvelles pièces d'Étienne Térus, qui connaissaient sa capacité et son réseau associatif, qui connaissaient sa capacité à mobiliser des fonds. Voilà, et qui ont profité sûrement de sa faiblesse à ce moment-là.
Oui, ce serait donc un abus de faiblesse qui pourrait expliquer le scandale. Bon, peut-être, maintenant, tout semble douteux, en fait, dans cette affaire, Philippe, parce qu'à partir de là, on va assister à du grand n'importe quoi.
Effectivement, d'abord, le trésorier du comité du peintre Térus, un expert local associé à un marchand de tableaux, certifie, lui, sans sourciller, que les toiles sont authentiques. Ensuite, on lance une étrange souscription pour trouver des fonds afin que le musée puisse acheter les tableaux et les présenter lors d'une grande rétrospective consacrée au peintre. Beaucoup de gens donnent jusqu'à 150 euros, ce qui permettra de récolter quand même un total de 160 000 euros.
Bon, mais où est le problème? Parce qu'une souscription, c'est un classique. En quoi elle est étrange, cette souscription?
Eh bien, le problème, c'est que rien n'est clair dans cette affaire. Cette souscription ressemble à du bricolage. Rien qu'en regardant les bulletins, me dit Robin Dominois, un ancien policier et chasseur de faux tableaux, on pouvait voir que ça ne collait pas.
Bulletin de souscription, nom, prénom, adresse, courriel, verse la somme 2 pour l'acquisition d'œuvres de Terrus. On ne sait pas qui est Terrus. Terrus, ça peut être Raoul Terrus, qui était boucher à Cabestany il y a 5 ans. Libellé ayant envoyé votre chèque à les amis du musée Terrus, un reçu vous sera adressé pour pouvoir déduire ce don de votre déclaration de revenus. C'est stupide, ça. Les déductions pour les déclarations de revenus ne concernent que les peintres contemporains et pas les peintres décédés. Là, ça semble un petit peu un piège.
Et un piège qui va se transformer en un scandale qui va finalement éclater au grand jour.
Et ce, grâce à la sagacité d'Éric Fourcade, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Ce catalaniste est désigné commissaire à l'exposition. Il commence donc à référencer les pièces nouvelles qu'on est censé présenter dans ce musée. Mais lorsqu'il se trouve face aux premières images de ces tableaux qu'on lui envoie par Internet, il tombe des nues.
Le jour où je reçois, donc le 29 août, l'ensemble des pièces par WeTransfer, que je les regarde longuement. Là, effectivement, je commence à naviguer, je vois qu'il y a une souscription, que ces pièces ont été acquises, qu'il y avait même un petit film qui montre et qui appelle à la souscription, et je vois l'ensemble des pièces que je venais de décrypter passer devant mes yeux sur YouTube, et je me dis, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que je me dis, c'est quand même gros.
Et c'est d'autant plus gros, énorme, Philippe, que certains de ces tableaux étaient des faux apparemment très grossiers.
Oui, et l'exemple le plus frappant que vous pouvez voir vous-même sur notre site internet, c'est ce tableau de Collioure où l'on peut voir une toiture qui n'existait pas du vivant du peintre. C'est ce que m'a fait remarquer l'ancien policier Robin Dominois.
Vous êtes en face d'une vue de Collioure où nous voyons le château royal. Et c'est là que vous allez voir la stupidité commise par le faussaire, justement, et la facilité d'analyse, même pas d'expertise. Je ne parle pas d'expertise à ce niveau-là. Là, vous êtes sur la chambre de la reine qui présente un toit à double pente. Et à partir de 59, on rehausse le bâtiment et on y met une tour crénelée. Ça n'a strictement rien à voir. Donc à ce niveau-là, c'est plus « je n'ai pas l'œil, j'ai mal regardé ». C'est une incompétence totale quand on est du département. C'est un petit peu comme si Terrus avait peint la cour du Louvre en y mettant la pyramide en verre. Et qu'on vient de vous dire, le peintre est mort en 22. Même vous, monsieur Altien, vous allez dire « mais c'est pas possible, vous me prenez pour un idiot ».
Ben non, monsieur Altien. Bon, c'est vrai que ça fait plutôt mauvais effet. Hein. Et lorsque tout ça, en tout cas, est mis sur la place publique, Philippe, le vaudeville va se transformer en une affaire judiciaire.
Oui, parce que le nouveau maire d'Elne n'entend pas en rester là. Cette affaire est une tache sur la réputation de sa commune. Il veut donc que la justice soit saisie et que la gendarmerie enquête. Et il confie pour cela le dossier à l'avocat de la commune, Mathieu Ponce-Serradeille.
Le maire d'Elne, Yves Barniol, a décidé de déposer plainte, à la fois sur la contrefaçon, sur le faux, sur l'usage de faux, mais également sur le recel. Vraiment une plainte très large, puisqu'on ne sait pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on peut appeler quand même une escroquerie à assez grande échelle et sur la durée, parce que on est sur plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, et sur le nombre d'œuvres. Quand on arrive à pratiquement 2/3 d'un musée constitué de faux, c'est quand même assez extraordinaire.
Ben oui, c'est assez extraordinaire et ça laisse penser qu'il y a toute une organisation derrière.
Dans cette affaire, il n'y a pas un seul homme qui aurait, dans un grenier, fait des vulgaires copies qu'il aurait ensuite vendues sous le manteau aux adjoints à la culture, aux anciens maires de la commune. On a un système qui passe par celui qui copie l'œuvre, celui qui la trouve, celui qui appose une fausse signature, celui qui ensuite la donne à un antiquaire ou un brocanteur ou un galeriste qui va lui-même le revendre à un autre de ses collègues et ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive dans le musée. Donc il y a vraiment toute une chaîne de celui qui fait le faux jusqu'à celui qui le vend et qui le remet entre les mains du musée.
Et c'est donc toute cette chaîne qu'il va falloir mettre au jour, ce qui reste à faire d'ailleurs pour l'instant, puisque personne n'a été mis en garde à vue, ni même mis en examen. Alors maintenant, ce qui est assez étonnant, Philippe, c'est que bien qu'une enquête ait été ouverte, eh bien, personne n'a demandé à être dédommagé.
Effectivement, c'est curieux, alors que le comité Terrus a quand même reçu 160 000 euros, y compris de particuliers, pour acheter ces faux. Ce qui fait pas mal de personnes gruger, eh bien, par un ou deux collectionneurs privés, personne ne bouge.
Et comment vous expliquez ça ?
Eh bien, peut-être parce que personne ne veut salir la mémoire d'Odette Traby, qui était un personnage local très respecté. Mais Robin Dominois, lui, pense qu'il y a peut-être aussi des raisons moins avouables.
La peur d'apparaître comme ridicule, la peur de dire « j'ai payé la moitié de des souscriptions au black », risque de contrôle fiscal, et en plus, le département est tout petit, tout le monde connaît tout le monde. Personne n'a intérêt, justement, à mouiller un tel, on se dit « je risque d'avoir un retour de bâton ». Et puis encore une fois, on ne veut pas passer pour une truffe. Personne n'a envie de dire « je me suis laissé berner avec des choses qui étaient évidentes ». Je n'ai pas vu la pyramide en verre au milieu de la cour du Louvre, on n'a pas envie de le dire.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu comment le musée d'Elne a acheté des faux grossiers, on a envie de comprendre, Philippe Reltien. Certes, Odette Traby, cette militante passionnée de Terrus, était sans doute vulnérable et affaiblie lorsqu'on lui a présenté ses toiles, mais elle avait bien un expert pour la conseiller, non ?
Oui, et c'est le troisième personnage principal de cette affaire. Le fameux trésorier du comité Terrus, le certificateur Gérard Rouquier. C'est un marchand d'art à la retraite de 77 ans, un notable de Perpignan qui se présente comme expert généraliste auprès des douanes, un titre qui a pourtant disparu depuis 2 ans. Alors je l'ai rencontré, il m'a reçu à côté de sa vitrine de soldats de plomb de Napoléon, et lorsque je lui demande comment il a pu certifier autant de faux, il se défend d'abord bec et ongles.
Moi, dans cette histoire, je dis simplement que je réfute les dires de Couliot, je réfute les dires d'Elne. Le verrou de Fragonard, il est passé 3 fois en vente publique comme faux, il est repassé comme vrai. À l'arrivée, nous aurons de grosses surprises.
Oui, autrement dit, lui, il vous soutient toujours qu'il ne s'agirait pas de faux.
Oui, mais quand je lui objecte qu'il y a des éléments précis dans le dossier qui laissent penser le contraire, alors là, le discours commence à évoluer. Il explique qu'il n'avait finalement qu'un rôle secondaire et qu'à partir du moment où Odette Traby considérait qu'un tableau était vrai, lui se rangeait systématiquement à son avis.
On ne pouvait pas mettre en doute Odette Traby. Odette Traby achetée pour le musée, pour la mairie. Si on avait le feu vert d'Odette Traby, c'était bon.
Ah oui, donc en gros, l'expert n'était pas là pour expertiser, mais pour dire amen à ce qu'on lui disait.
C'est ça. Mais quand on le pousse encore un peu plus loin, alors là, Gérard Rouquier finit par reconnaître qu'il a bien pu se tromper. Et que se tromper, finalement, c'est normal quand on est expert.
Un expert qui ne s'est pas trompé une fois dans sa vie n'est pas un bon expert. Voilà. Donc, on n'a pas la science infuse. Il est vrai que parfois, on peut se laisser aller à un jugement. Il y a des fois où on se dit, bon, ben oui, pourquoi pas, après tout, ça vient de là, il y a une filiation de l'objet. Bon, la principale qualité d'un expert, c'est la modestie et l'humilité.
Voilà, on retiendra donc que votre expert est un homme humble et modeste. Bon, maintenant, si on prend un peu de hauteur, Philippe, cette affaire, elle pose quand même la question de la compétence de ces experts.
Eh bien oui, parce qu'en fait, tout le monde, à Perpignan comme ailleurs, peut se prétendre expert. Il n'y a que lorsque vous témoignez devant les tribunaux que vous devez bénéficier d'une habilitation. Mais pour le reste, vous pouvez très bien mettre une carte sur votre devanture sur laquelle est mentionné « expert conseil ». L'ancien policier Robin Dominois a d'ailleurs apposé sur la vitrine de sa galerie à Collioure une affichette où on peut lire « Suite au scandale des faux Terrus, venez expertiser chez moi ». Et lui pense que des experts douteux dans sa région, il y en a à l'appel.
Il y a certains experts du département, que je nommerai pas, je ne vais pas les vexer, qui, lorsqu'ils m'ont vu travailler avec la lampe ultraviolet, sont venus me demander ce que c'était. Gérard... C'est le béaba du métier quand même, vous voyez un petit peu le niveau général.
Gérard Rouquier m'a sorti sa lampe ultraviolet.
Que j'ai dû lui vendre, il y a 3 ans.
À l'expert ?
Oui.
Il me l'a sorti hier.
Elle devait être noire, de cette taille-là, à peu près, comme ça, voilà, c'est moi qui lui ai vendu.
Bonne ambiance hein, entre les experts dans le coin. Bon, mais des experts contestables, Philippe, c'est pas spécifique à cette région.
Eh bien non, Et celui qui l'a constaté est sans doute un des meilleurs connaisseurs en faux tableaux de France et du monde. Il s'appelle Guy Ribes. Il a fait des faux de grands maîtres, y compris des Picasso, qui ont été vendus dans des grands musées français et britanniques. Pour lui, le métier d'expert est suspect à partir du moment où on est soi-même un marchand d'art. Et pour éviter tout conflit d'intérêts, il pense, et il le dit, qu'il faudrait créer un diplôme d'État qui aujourd'hui n'existe pas.
Ce qui serait logique, c'est de faire une école formée des experts nationaux, des fonctionnaires, qui sont pas marchands, qui sont spécialisés dans une forme d'art, de certains peintres, et ainsi de suite, mais carrément spécialisé à mort. Et là, ça serait légal. Un expert serait un véritable expert. Comme un véritable chimiste, comme un véritable chirurgien, comme un... Alors que là, c'est une mafia.
Ouais, une mafia, on lui laissera le terme, hein, même si on imagine, on comprend ce qu'il veut dire. Maintenant, Philippe Reltien, faut dire les choses aussi, il y a aussi des experts très sérieux en France.
Bien sûr, à côté de la salle des ventes Drouot, notamment, vous avez la Chambre syndicale des experts en art, le CNES, et vous trouvez là des élèves experts en spécialité, engagés dans des études très poussées et qui font l'objet d'une sélection très sévère, comme me le dit la présidente du CNES, Geneviève Baume.
La personne qui rentre chez nous demande une spécialité. Il est convoqué et il a des questions sur sa spécialité qui sont notées très sévèrement. Il doit obtenir la note de 12 sur 20. Et s'il est reçu, il devient élève expert. Et là, il a une formation. Il doit travailler pendant un certain nombre d'années et il doit choisir dans sa spécialité son maître de stage qui lui est son référent. Par exemple, pour un maître en peinture, il a son référent. Et en général, ils sont rarement admis experts avant 4 ou 5 ans derrière. Pour décrocher son titre d'expert, l'examen est très difficile.
Et ces experts haut de gamme, ils auront bientôt un titre officiel reconnu par l'État, ce qu'ils demandent depuis 25 ans. Donc les choses avancent tout de même.
Oui, elles avancent, Philippe. Maintenant, vous pourrez toujours avoir les meilleurs experts de la Terre. L'expertise ne sera jamais une science exacte. On a toujours d'ailleurs des cas où il est impossible de distinguer le vrai du faux.
Effectivement, toute science a ses limites et Sarah Huguenin, qui est journaliste au quotidien de l'art, connaît plein d'exemples qui donnent toujours lieu à des batailles d'experts.
Il y a un nombre de tableaux de poussins qui étaient des tableaux de poussins dans les années 20, qui ont été désattribués, qui n'étaient plus des poussins, donc considérés comme des faux dans les années 50, qui de nouveau, depuis 20 ans, sont considérés comme des poussins, qui dans 20 ans ne seront plus des poussins et dans 50 redeviendront des poussins et ainsi de suite.
Oui, on ne saura jamais finalement quelle est la vérité. Mais ce qu'il faut préciser, Philippe, c'est que des faux, il y en a de toutes sortes. Là, on vient d'évoquer Poussin, mais il y a des peintres bien moins importants qui, eux aussi, sont copiés.
Oui, rien que dans les Pyrénées-Orientales, on peut encore citer Louis Bozil, Charles Laffay, Willy Mouchat ou plus récemment Giner, dont on imite les clowns du cirque Amar. Mais il y a surtout l'aquarelliste Augustin Anicott, dont on imite facilement la signature, parce qu'il signait de plus de 20 manières différentes. Bref, il y a de quoi donner du travail à l'ancien policier et expert local Robin Dominois.
Moi, je décèle les premiers faux qui sont des Anicott dès 2008, sur des ventes aux enchères du département. Donc je pense que l'arnaque a entre 10 et 15 ans.
Terrus, Anicott et Balbino Giner.
Bien sûr, on est même tombé très bas. C'est-à-dire que j'ai vu, c'est il y a 15 jours, on m'a présenté un Étienne Gonny, ça vaut 200 euros. Faux, totalement contrefait. On fait des contrefaçons pour 200 euros maintenant. Tant qu'il y aura une demande constante, le faussaire ou d'autres faussaires produiront et on trouvera toujours des moyens d'écouler de la marchandise fausse.
Ouais, des faux qui ne valent donc souvent pas grand-chose, mais qui permettent quand même à leur auteur, hein, c'est ce que j'entends, d'empocher 50 euros par-ci, 100 euros par-là. Il n'y a pas de petit profit. Alors ces tableaux, ils atterrissent chez des particuliers. Mais dans les musées, Philippe, j'imagine que les choses se passent différemment, non ?
Ah non, détrompez-vous, pas toujours. Le célèbre faussaire que j'ai rencontré, Guy Ribes, affirme que ces faux Degas qu'il me montre sur son smartphone sont toujours accrochés dans des musées en Angleterre. Et il y en aurait bien d'autres.
J'en vois régulièrement sur la gazette de mes tableaux. Je les reconnais tous. Et ils sont certifiés. Si même moi, j'allais dire, c'est un faux, on mourira au nez. Il y en a même dans les musées qui ont mes initiales dans les bouquets de fleurs. Il y a des Chagall qui sont dans des musées, qui, dans le bouquet de fleurs, il y a mes initiales, GR. Il n'y a que moi qui le sais.
Il y aurait des faux tableaux de grands maîtres dans de grands musées ?
Ça, c'est ce que nous affirme Guérib. Mais dans quelle proportion ? C'est ça la bonne question. Parce que, pour ce qui concerne Miro, l'un des artistes les plus copiés, il faut savoir que 650 demandes d'authentification ont été refusées en 10 ans. Ce qui laisse supposer que 20% des œuvres en circulation pourraient être des faux. Mais il y a plus incroyable encore. Il est arrivé que de grands peintres certifient comme étant de leurs mains des tableaux qui ont pourtant été peints par Guérib. Écoutez encore cette anecdote au sujet de Dali.
Salvatore Dali avait un musée du pot, il adorait les pots. Et même des pots de lui. Il avait un musée à Caracas où il n'y avait que des pots. Des pots Dali, il adorait ça. Et Dali a eu dans les mains de Médecin à moi qu'il a authentifié.
C'est Dali qui vendait des droits de reproduction. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui au scandale des lithos.
Ben, il vendait toujours le même prix, d'ailleurs, je crois que c'était 50 000 dollars. Il prenait une image d'un de ses tableaux, il vendait les droits de l'image, terminé. Et il signait même pas. Les trois quarts du temps, c'est moi qui ai signé les trois quarts des tirages.
On vous paye le Concorde pour aller signer dans un hangar.
J'ai signé des millions de lithographie, gravure et tout.
Ah oui, donc si vous avez une lithographie de Dali, il y a de bonnes chances pour que la signature soit en fait de Guérib. Bon, bah c'est toujours bon à savoir, même si ça va en décevoir pas mal. Bon, cela dit, cette industrie du faux, Philippe Reltien, elle progresse ou elle recule ?
Alors ça, c'est difficile à dire. La plupart des faux tableaux sont dans des collections privées. Et quand je demande un chiffre à l'OCBC, la police judiciaire des œuvres d'art, le commandant divisionnaire Corinne Chartrelle a du mal à répondre.
C'est difficile, on n'a pas de statistiques sur les faux. Donc vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plus qu'avant de gens qui produisent des faux, peut-être, en tous les cas, ce que je peux dire là, statistiquement, c'est que depuis 10 ans que nous travaillons à l'OCBC sur les faux, il a fallu se familiariser, donc effectivement, à cette thématique, et que nous avons plus de dossiers qu'il y a 10 ans.
Et plus il y a de dossiers, plus il y a du travail, évidemment. Or, ils ne sont que 15 enquêteurs à l'OCBC.
Ah oui, c'est pas beaucoup. Et leur travail est d'autant plus délicat que, dans certains cas, pour suivre des faussaires qui imitent de très vieux peintres, oubliés, c'est juste impossible.
Et pourquoi ?
Eh bien, il faut savoir que la peinture tombe dans le domaine public, comme les partitions musicales. 70 ans après la mort d'un artiste, vous pouvez donc l'imiter. Alors, bien sûr, si vous le faites pour tromper un acheteur, et si vous le faites, comme on dit, en réseau, en bande organisée, vous tombez sous le coup de la loi. Mais il existe toute une zone grise qui permet de faire des faux. Et certains des faux Terrus, dont on a parlé, pourraient faire partie de cette zone grise, comme l'explique le professeur en droit de l'art, Tristan Azzi.
Le droit moral ne peut pas s'appliquer dans l'hypothèse d'un vrai faux, c'est-à-dire d'un tableau qui est dans le style d'un peintre, mais qui ne reprend pas les éléments originaux d'une ou deux toiles préexistantes. Et dans cette hypothèse, le fait d'apposer la signature du peintre ne porte pas atteinte à son droit moral, un élément de son droit moral qui est le droit de paternité, parce que précisément l'objet sur lequel la signature est apposée n'est pas une œuvre du peintre en question, et que le droit d'auteur ne s'applique qu'aux œuvres créées par le peintre qui est titulaire du droit d'auteur.
Ah oui, donc si je peins fidèlement des tournesols de Van Gogh, je peux être poursuivi. Mais si je peins des chrysanthèmes à sa manière et que je signe Van Gogh, alors là, je ne risque rien.
A priori, non, c'est ce qu'on découvre. Et vous pourrez le garder chez vous jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve dans une vente où on croira peut-être qu'il s'agit d'un vrai.
Oui, donc on peut faire certains faux en toute impunité. Et le résultat de tout ça, Philippe, c'est que des faux, aujourd'hui, il y en a partout.
Oui, et on peut penser qu'on en est peut-être qu'au début d'un gigantesque problème. C'est en tous les cas l'avis d'Éric Fourcade, l'historien de l'art. Selon lui, des montagnes de faux dorment dans les collections privées et c'est lorsqu'elles seront dispersées qu'on se rendra compte de l'étendue des dégâts.
Ce qu'on voit au bout de 10 ans, c'est le mal qui a été fait aux collections privées, qui rejaillit sur les collections publiques, qui demande aux privés de prêter des pièces pour être exposées. Voilà. Donc là, on commence à s'apercevoir des dégâts et voir la pointe de l'iceberg. On commence à peine aujourd'hui. Ces pièces-là sortiront de ces maisons dans 70, 80 ans, après une succession ou deux. Donc on se rendra compte des méfaits de cette crise du faux que dans 80 ans.
80 ans pendant lesquels les faussaires ont encore de beaux jours devant eux. Car même si la réglementation se durcit dans les années qui viennent pour mieux tracer les œuvres, Internet et les sites de petites annonces inondent le marché de toutes ces contrefaçons. D'où un constat terrible. il y a aujourd'hui plus de faux terrus que de vrais en circulation, et seuls nos grands musées sont encore en partie préservés de ces faux.
En partie, oui, on l'a vu. D'où le conseil qu'on peut donner, Philippe, c'est soyez vigilants, et puis surtout, ne vous trompez pas d'experts. Merci Philippe Reltien pour cette enquête, enquête qu'on peut retrouver sur franceinter.fr, qu'on peut commenter sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France, ou encore sur notre compte Twitter, Investigation RF. Mais restez avec nous dans quelques instants, nous allons voir que les enceintes connectées, très offertes à Noël, cherchent à nous faire consommer toujours plus. C'est doux, c'est suave, c'était Into the Sun, extrait du prochain album du groupe américain Mandoline Orange, un album qui sortira en février prochain. Vous êtes gâtés, donc on l'entend en avant-première.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Sophie Anfanen, bonjour.
Bonjour.
Pour le site d'information Les Jours, vous avez-vous enquêté sur les assistants vocaux, ces enceintes connectées qu'on s'est beaucoup offert à Noël, des enceintes à qui on parle, qui sont censées exaucer nos désirs, mais on peut quand même rappeler qu'initialement, ces enceintes, elles avaient été conçues pour l'armée.
Et effectivement, cet assistant vocal, en fait, devait à la base aider des gens qui étaient plutôt dans les centres opérationnels à se décharger des choses, je dirais, un peu matérielles. L'organisation des réunions, caler une salle, envoyer un message à quelqu'un pour pouvoir se concentrer sur l'opérationnel, c'est-à-dire les soldats qui sont, eux, sur le terrain de l'autre côté de l'écran. Et cet outil-là a été ensuite déployé pour le civil sous le nom de Siri au sein d'une application, puis des téléphones Apple quand Apple a racheté Siri. Et toute cette technologie a ensuite suivi son cours. Alexa d'Amazon, assistant de Google, Facebook aussi veut lancer un assistant vocal, Microsoft à Cortana, on est en plein dedans.
Et Orange devrait s'y mettre aussi ?
Orange s'y met, Orange est dessus, leur projet s'appelle Jingo, il est en train d'être terminé, il est en test déjà en France et en Allemagne, donc on y vient aussi a priori courant 2019 pour Orange.
Alors ce que vous avez constaté, c'est que c'est vrai que Siri, auquel on est un peu plus habitué, c'est une voix masculine. Les autres, ce sont tous des voix féminines.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut même spécifier que Siri a une voix masculine en France, mais c'est une exception. Siri a une voix féminine aux États-Unis, un peu partout. Très majoritairement, même quasiment exclusivement, les assistants vocaux ont des voix féminines et des prénoms. Alexa, Cortana. Effectivement, c'est bêtement sexiste, d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui dit, OK,
on donne des ordres à quelqu'un, donne forcément des ordres à quelqu'un. C'est une femme.
C'est le modèle de la secrétaire des années 50 qu'on appelle à travers une paroi, dans les films, dans les séries télé, on appelle la secrétaire à travers la paroi et puis elle arrive avec le dossier, le café, etc. Et en plus, la voix qui s'exprime dans la publicité, c'est-à-dire la voix publique de ces assistants vocaux, est une voix féminine. Donc, on peut toujours dire oui, mais vous pouvez prendre une voix masculine, etc. Non, le choix par défaut, c'est une voix féminine. Amazon, leur assistant s'appelle Alexa, il s'appelle pas Patrick.
Ouais. Alors, ce que vous expliquez dans votre enquête, c'est que les assistants vocaux, c'est pas une intelligence artificielle. Ils sont un peu bêtes quelque part et il y a plein de consignes qu'on leur donne et qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, il y a des petites mains, il y a des gens derrière.
C'est clairement des machines qui sont très performantes, très puissantes, mais elles ne sont pas capables de comprendre vraiment ce qu'on leur dit. Elles comprennent si on leur donne un ordre, c'est-à-dire si on a une chaîne de mots que l'assistant est capable de reconnaître et de dire si j'ai ces deux mots qui sont dans la même phrase, il y a 83,8% de chances que ça veuille dire ça, donc je fais ça. Mais seulement, si on est dans les 10 autres pourcents par exemple, il se passe un truc qu'on n'attend pas forcément.
Et c'est là qu'il y a du monde derrière.
Et c'est là que derrière, on pense que tout ça, c'est des histoires de serveurs, dans le cloud, de big data, etc. C'en est. Mais c'est avant tout
des gens
qui sont soit en France, soit en Allemagne, soit aux Philippines, au Bangladesh, etc. qui sont des travailleurs du centime, c'est-à-dire ils sont payés quelques centimes de leur monnaie pour effectuer une micro-tâche. Et cette micro-tâche, ça va être, est-ce que cette phrase qu'on a dite à Cortana, à Alexa, ça. Est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire ça? Ils cliquent sur un bouton parce que eux, ils vont dire oui, bien sûr que ça veut dire ça parce qu'un humain peut comprendre que ça veut dire ça. Quand je vous dis je voudrais acheter une boîte d'œufs, vous comprenez que je veux des œufs pour faire une omelette. Mais Alexa comprend une boîte d'œufs comme le chiffre. Et donc il y a un humain derrière qui va lui dire non, deux là, dans cette phrase là, ça veut dire les œufs pour faire une omelette. Et donc comme ça, on éduque en fait des intelligences artificielles. Mais c'est ce qu'on fait tous depuis quelques années sur Internet. Par exemple, quand vous avez ces fameuses captcha là qui vous disent est-ce que vous êtes un robot, etc. À un moment, on devait reconnaître les panneaux par exemple dans une image,
ou reconnaître les voitures, les images qu'on reconnaît, les chats, pour bien montrer qu'on est là, quoi.
Et ben ça, c'est l'éducation d'intelligence artificielle. Donc on le fait tous depuis plusieurs années.
Et alors, il y a des choses qu'elle n'arrive pas encore à comprendre. C'est par exemple quand on veut faire des achats. Si je veux une marque de café, c'est vrai que c'est trop compliqué parce qu'il faut savoir quelle marque de café, dans quel type d'emballage, avec quel type de dosette ou sans dosette. Donc, il ne peut pas répondre.
Oui, donc c'est pour ça qu'Amazon est en train de mettre le pied dans l'espace physique. Amazon, aux États-Unis, a racheté une chaîne de produits frais qui s'appelle Whole Foods. Ils ont lancé une boutique et également, en France, ils ont passé un partenariat avec Monoprix parce qu'ils ont besoin de nos paniers, en fait, ils ont besoin de nos habitudes d'achat. À partir du moment où ils savent que votre marque de café, c'est celle-là, que vous aimez le grain fin parce que vous avez une machine expresso, etc., vous n'avez plus besoin de le spécifier, Amazon le sait. Donc, ils ont besoin de ce savoir-là, et pour l'instant, ce savoir, il est dans les magasins physiques sur notre ticket de caisse.
Amazon prépare de l'électroménager connecté.
Effectivement, Amazon lance aux États-Unis un micro-ondes, il lance une horloge également, il lance un petit appareil qui se branche dans la voiture, il lance des appareils qui se branchent sur les chaînes Hi-Fi pour transformer n'importe quelle vieille chaîne CD
avec
en
un micro
appareil
sur
Alexa,
chacun de ces appareils.
Avec un micro sur chacun de ces appareils.
Qui on pourra parler comme on parle à l'enceinte.
Le rêve d'Alexa, d'Amazon et de l'ensemble de Google, Apple, ils font tous pareil, c'est que dans notre environnement, on puisse dire quelque chose et il va se passer quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, ce qu'on a envie, ça va se passer.
Avec un mode de fonctionnement assez dingue quand on y pense, parce que ça veut dire en gros qu'on va parler à un appareil qui lui-même enverra nos consignes dans la Silicon Valley, qui ensuite recontrôlera éventuellement nos appareils. Si par exemple je dis au micro-ondes, tiens, fais-moi cuire un plat à telle température, boum, ça part à l'autre bout de la planète pour revenir donner des ordres à l'appareil qui est à côté de moi.
Exactement. Alors on ne sait pas exactement où ça part, parce que ça se trouve, ça part dans des serveurs qui sont en France. Mais dans tous les cas, s'ils sont sur des serveurs en France, ça peut partir aux États-Unis, etc., etc. Ça pose aussi une question écologique. Demander à Alexa d'allumer une lumière alors que le bouton est à 2 mètres de vous. Tout le monde est un peu feignant et il faut toujours compter sur la feignantise des gens, c'est un moteur du capitalisme. Mais si cette information passe par un serveur qui est au fin fond de la Finlande pour revenir pour allumer une lumière, ça pose quand même un problème écologique.
C'est quand on délègue la capacité d'agir sur notre maison à quelqu'un qui est à l'extérieur, en fait.
Exactement. Et tout ça avec une impulsion électrique qui, cumulée par des millions et des milliards d'impulsions électriques, commence à faire une masse d'électricité absolument dingue. Donc, il y a déjà des gens qui travaillent travaillent technologiquement et des voix qui s'élèvent politiquement pour dire encadrons tout ça, les lumières, le micro-ondes, etc. Il faut que ce soit traité en local, c'est-à-dire ça ne sort pas de chez vous, ça reste dans votre petit réseau Wi-Fi maison, il n'y a pas besoin d'envoyer ça vers un serveur. L'intelligence pour allumer une lumière, elle n'est pas extrêmement puissante.
Alors, il y a aussi la question, on va terminer par ça, il y a aussi la question que beaucoup se posent, il a été sous-entendu ou dit que ces enceintes dans nos salons pourraient nous écouter et donc finalement deviennent des espions à l'intérieur de notre domicile. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans?
Alors, ce que disent les marques, c'est qu'on n'enregistre pas tant que vous ne parlez pas. Par contre, dès que vous parlez, effectivement, c'est enregistré, c'est stocké. Et ça, on ne sait pas pour combien de temps c'est stocké, parce que les marques disent « oui, mais on en a besoin pour améliorer
le
système ».
Mais ça veut dire qu'elles ont la capacité d'écouter ce qu'on dit, même quand on ne leur parle pas.
Techniquement, oui. Et on sait très bien que aucun service est inviolable. Il y a aucune marque. Google vient d'avoir une fuite gigantesque sur son réseau Google+. Facebook a des fuites tout le temps. Tout Internet fuit. Par contre, est-ce que ça va plus loin que la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Quand vous avez votre téléphone portable posé sur la table de votre salon, il peut aussi vous entendre. Il peut aussi être hacké. La vraie différence avec le téléphone portable, c'est est-ce que j'ai envie d'imposer ça à ma famille entière? Il y a des enfants dans les foyers. Il y a des gens qui veulent peut-être pas. Il y a des invités. Peut-être que dans 15 ou 20 ans, ma fille va me faire un procès en disant « Mais papa, pourquoi t'as fait rentrer Alexa dans la maison? Maintenant, moi, toute ma vie privée, elle est en ligne, elle nourrit Amazon. Amazon a un profil de moi, alors que je ne veux pas. J'étais petite, je ne t'ai jamais dit oui. » Ça, c'est une vraie question.
Merci Sofian Fanen, en tout cas, pour toutes ces explications. Je rappelle que votre enquête sur les assistants vocaux est publiée sur le site lesjours.fr. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Jean-Baptiste Audibert qui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, Denis Chessou et CO2 Mon Amour. Quant à moi, eh bien, au nom de la cellule investigation de Radio France, je vous souhaite une excellente fin d'année.